Donc, je vais souhaiter maintenant la bienvenue à Mathieu. Comment ça va?
Ça va bien. Bonjour, Léla.
Bonjour. Donc, bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Ben, pour la chronique des avatars anonymes, on va parler encore une fois du gouvernement fédéral et de ses différentes frasques. C'est un peu inévitable avec tout ce qui se passe ces temps-ci. Il y a deux semaines, Marie-Ève vous avait parlé du projet de loi qui allait être déposé concernant le SCRS et la dite lutte contre le terrorisme. Il a été déposé finalement la semaine dernière. C'est le projet de loi C-44 qui... On dit qu'il donne plus de pouvoir à la GRC et au SCRS. C'est surtout le SCRS, les services de renseignement, qui sont visés. On parle ici d'une plus grande protection des sources, de clarifier son action, l'action du service à l'international et d'élargir la capacité de partager de l'information avec d'autres agences étrangères. Mm-hmm. Mais le point qui est peut-être un peu plus dangereux ou menaçant pour les Canadiens, Canadiennes,
oui,
c'est qu'on compte aussi abaisser le seuil qui permet aux forces de l'ordre de faire des arrestations préventives et de détenir des gens de façon continue sans passer devant un juge ou sans avoir accès à la preuve. Donc ça, c'est le côté qui risque de toucher beaucoup plus les gens ici. Au niveau de l'international, ben, ça, on sait déjà que le SRS collabore avec plein d'autres pays, plus de 140 pays, si je me trompe pas. La protection des sources, ça peut être aussi un problème parce qu'on a vu beaucoup de cas, entre autres dans le cas des certificats de sécurité, de gens qui avaient dit des choses, même des fois sous la torture ou de façon intéressée, pour incriminer d'autres personnes, et ça peut être un problème. Donc si on les protège plus, ça peut être aussi un problème. Donc ça, c'est des trucs qu'il va avoir à voir. On parle aussi dans les articles de la question de la citoyenneté canadienne, c'est-à-dire qu'on voudrait enlever la citoyenneté plus rapidement à des gens qui ont la double nationalité, qui sont déclarés coupables d'infractions comme le terrorisme ou la trahison. Mais ça, il y a déjà eu un projet de loi l'année passée qui est passé dans ce sens-là, donc c'est un peu de la redite. Ben voilà, c'était prévu avant ce qui s'est passé dans les dernières semaines à Ottawa et à Saint-Jean, mais disons que ça a donné un élan de plus au gouvernement pour en faire plus de publicité, mm-hmm, et pour dire aussi que ce serait seulement une première étape, qu'en vertu de ce qui se passe actuellement, il y aurait d'autres projets de loi, d'autres serments des libertés par rapport à la sécurité nationale. Donc, voilà, on va voir la suite, mais c'est sûr que c'est relativement inquiétant, et j'aime bien la déclaration de Stephen Blaney, ministre de la Sécurité publique, qui allait proposer des mesures concrètes pour lutter contre les radicalistes, les terroristes, les islamistes et contre ceux qui veulent attaquer le Canada. Donc, on n'est pas dans la nuance ici. Et le ministre de la Justice, le subtil Peter McKay, a aussi dit qu'il y aurait un projet de loi, comme en Angleterre, sur la glorification du terrorisme, qui est un problème selon lui. Donc, on s'en va dans une année électorale en plus. On va avoir de la surenchère au niveau de la sécurité nationale. Donc, on va en parler ici à la chronique.
Oui.
C'est ça. Sinon, une autre nouvelle, peut-être un petit peu plus joyeuse, malgré que c'était à vérifier. Je vous avais parlé au mois de septembre d'opérations conjointes de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Transports de l'Ontario qui faisaient des espèces de razzias pour arrêter des véhicules commerciaux qui transportaient des immigrants plus ou moins sans papier pour aller travailler dans la région de Toronto. Mm-hmm. Et ce qui avait été dénoncé beaucoup par le groupe No One is Illegal Toronto, puisque le ministère de l'Ontario se servait de vérification de la sécurité routière pour arrêter des gens et les faire renvoyer finalement par l'agence. Donc c'était assez douteux comme collaboration. Le ministre responsable a décidé d'arrêter ces opérations conjointes-là après qu'il y a eu beaucoup de contestations, dont le groupe No One is Illegal, qui avait dénoncé l'arrestation et le renvoi de 21 immigrants justement par cette méthode-là, et qui a fait une plainte auprès de l'Ombudsman. Donc ça avait sorti beaucoup dans les médias. On dit que le partenariat est terminé, mais malgré ça, No One is Illegal affirme que même depuis, des immigrants ont été arrêtés par des agents du ministère des Transports sans que l'agence soit là, mais ils ont remis plus tard à l'agence. Mais on s'attaque des employés du ministère des Transports, c'est pas fait pour arrêter les gens, là. On parle de vérification des véhicules. Donc, il n'y a rien de réglé complètement. Disons qu'il y a eu un recul quand même de l'Agence des services frontaliers, mm-hmm, qui fait à peu près n'importe quoi. Comme disait Marie-Ève il y a deux semaines, il n'y a à peu près aucune surveillance de cette agence-là. Donc, ça va être à voir exactement qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Mais le ministre affirme que les agents du ministère des Transports suivent les procédures et qu'ils contactent les autorités s'il y a des individus recherchés. Mais on s'entend qu'officiellement, tous les gens qui n'ont pas de statut peuvent être recherchés, mais c'est pas la job des fonctionnaires de faire ça. Donc, à surveiller en Ontario pour la suite des choses. Programme des soins de soins aux réfugiés. on en a parlé aussi beaucoup dans les dernières années. Programme qui donne des soins gratuits aux gens qui sont en attente de statut, qui ont été réfugiés, qui ont été refusés, mais qui sont en attente d'appel, qui peuvent pas être envoyés. Ça existait depuis des années. En 2012, les conservateurs ont coupé là-dedans de façon importante. Donc, beaucoup de gens se sont trouvés sans accès aux soins, autant physiques que santé mentale, psychiatrique, psychologique et autres. Donc, la Cour fédérale, cet été, a décidé que c'était inconstitutionnel que le fédéral ne couvre pas les frais pour les soins de santé pour les réfugiés. Donc, décision assez intéressante. Et le gouvernement fédéral avait jusqu'à ce mardi, donc demain, pour rétablir le programme. Donc, il y avait eu 4 mois. Mais finalement, il avait été décidé d'aller en appel. Et là, ils ont demandé à la Cour fédérale d'appel, le temps que l'appel soit entendu, que le programme ne soit pas remis. Sauf que là, ça fait un problème parce que ça peut prendre 1 an, 2 ans avant que l'appel soit entendu. Donc, pendant tout ce temps-là, ben, des réfugiés, des futurs réfugiés, des gens qui sont en statut précaire ne pourront pas bénéficier, si la Cour fédérale accède, ne pourront pas bénéficier de soins de santé gratuits. Puis le jugement était assez clair contre le gouvernement fédéral. On parlait de compromettre la santé, la sécurité et même la vie des enfants, des réfugiés et des réfugiés, que c'est un système de santé à 2 vitesses dans ce cas-ci, quand on décidait de cibler des gens et de leur dire qu'ils n'avaient pas le droit à des services. Donc, c'est un problème. Il y a 6 provinces, dont le Québec et l'Ontario, qui ont décidé de maintenir le programme à leurs frais pendant que le fédéral sortirait, mais ça, c'est temporaire et c'est beaucoup plus lourd et bureaucratique, donc c'est plus compliqué pour les réfugiés.
D'accord.
Et peut-être dire aussi là-dedans que la couronne, le gouvernement fédéral, finalement, qui conteste, dit que rétablir le nouveau programme, l'ancien programme, pardon, ne ferait que semer la confusion, créerait un préjudice pour son appel. Et évidemment, les deux réfugiés qui avaient fait la poursuite avec leur avocat ont répondu que ça serait surtout plus dommageable et préjudiciable pour les réfugiés que pour le gouvernement fédéral que le programme ne soit pas rétabli. C'est assez évident. Donc, le gouvernement a refusé de répondre aux médias suite à cette demande de sursis-là. Mais on sait très bien que leur position, c'est qu'ils font une séparation entre les bons réfugiés, les mauvais réfugiés, les bons immigrants, les mauvais immigrants. Donc, c'est toujours cette même logique-là de dire il y en a qui ont droit à des choses et d'autres non. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir la réponse de la Cour d'appel fédérale là-dessus, mais on suit le dossier au niveau des soins.
Excellent.
On continue?
Oui.
Toujours nos amis conservateurs à Ottawa. Vous savez que ça fait quelques fois que le fédéral fait ça, déposer une loi d'adoption du budget, mais où on met plein d'autres mesures sur l'environnement, l'immigration, mélangées là-dedans. On appelle ça des projets de loi omnibus. C'est le 3e ou 4e. Il a été déposé le lendemain des événements d'Ottawa, d'ailleurs un peu dans la discrétion. Donc, une loi de 478 pages où on met plein de choses en plus du budget qu'on est supposé adopter. Et là-dedans, comme par hasard, on a vu qu'il y avait une proposition, qui est une proposition d'un député d'arrière-ban fédéral qui a été repris par le gouvernement, qui permettra aux provinces de priver les réfugiés d'aide sociale pendant un certain temps. Un peu technique comme disposition, mais vous dire qu'il y a une loi où le fédéral transfère de l'argent pour les programmes sociaux aux provinces, et les provinces sont obligées de donner l'argent à l'aide sociale à tout le monde qui en a besoin, que tu viennes d'arriver hier ou que ça fasse 10 ans, ou que tu sois né ici, parce que tout le monde a besoin d'un minimum garanti. C'est obligatoire. Donc là, il permettrait aux provinces d'imposer un délai de résidence. C'est un projet de loi qui s'appelle C-43. Donc, qui permettrait de protéger les citoyens canadiens et les résidents permanents. Certaines victimes de sévices et certains demandeurs d'asile acceptés, mais les demandeurs d'asile fraîchement débarqués ou surrefusés qui ne peuvent pas être envoyés dans leur pays pour toutes sortes de raisons, eux pourraient perdre l'aide sociale, donc seraient sans revenus. Donc, évidemment, on se retournerait vers les groupes humanitaires, vers les communautés religieuses, vers les gens qui peuvent aider les gens qui n'ont pas de revenus. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une discrimination basée sur le statut. Donc, c'est vraiment assez important comme problème. Il y a le Centre canadien des réfugiés qui a réagi un peu là-dedans en parlant, entre autres, des femmes enceintes, des enfants qui arrivent sans famille, toutes sortes de situations qui arrivent régulièrement où les gens n'auraient pas le droit à un revenu minimum d'aide sociale. Ça serait les refuges pour itinérants qui s'occuperaient de ces gens-là. Ça serait les agences de services sociaux de santé. Donc, ça serait vraiment un problème. Et ça contrevient, évidemment, à tous les traités internationaux et toutes les conventions sur le droit des réfugiés et sur le droit de tout le monde avoir un revenu donc garanti. Et c'est drôle parce que en juillet dernier, la Cour fédérale, qui avait justement, dont je vous ai parlé tantôt, qui avait dénoncé la fin du régime des soins pour les réfugiés, c'était aussi basé sur d'autres jugements qui disaient en Angleterre, entre autres, que ce genre de discrimination-là ne pouvait donc être permise. Donc, à suivre là aussi, parce que c'est tout récent. C'est un des projets-là déposés la semaine dernière.
Ben merci. Il nous reste quelques minutes.
Il nous reste quelques minutes?
Oui, oui, il nous reste 5 minutes.
Ah, ben écoute, je vais y aller avec mon dernier sujet.
Oui.
En attendant tes prochains invités. Toujours, je sais que Simon, il y a un mois, vous avez parlé des chiffres récents, de l'année passée, sur les réfugiés qui étaient arrivés ici, les immigrants, tout ça. Et là aussi, cette semaine, ben, vendredi dernier, finalement, le gouvernement fédéral a déposé son plan annuel en matière d'immigration qui s'appelle « Assurer la prospérité et la croissance économique à long terme ». Mm-hmm. On parle d'un plan d'immigration. C'est assez particulier, mais ça, c'est les orientations du fédéral depuis quelques années. Donc, on parle qu'en 2015, le Canada veut accueillir entre 260 000 et 285 000 nouveaux résidents. Une légère augmentation. Et on dit que ces niveaux élevé découle de la stratégie du gouvernement visant à favoriser la croissance économique en palliant les pénuries de main-d'œuvre et de compétences et en aidant à augmenter le taux de la population active. Et la catégorie de l'immigration économique, évidemment, prend la part du lion à 65%. Les regroupements familiaux se retrouvent à 24% et les cas humanitaires, comme les réfugiés, à 10%. Ça, c'est en baisse depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et le fédéral va profiter aussi de ce plan annuel-là pour lancer un nouveau guichet automatique, un guichet d'entrée qui va être beaucoup plus rapide et axé sur les besoins des employeurs. Donc, on est toujours dans la même logique, donc, de favoriser l'économie canadienne et non pas les besoins des immigrants qui viennent ici. Mm-hmm. Donc, un nouveau système d'immigration fast-track pour les entreprises qui veulent avoir des travailleurs très spécialisés. Donc, on continue un petit peu la même démarche depuis quelques années. Et on parle de cette catégorie-là, économie de la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, voilà. Donc, ça, on en a parlé souvent des orientations au niveau de l'immigration du gouvernement fédéral conservateur depuis quelques années. Et on continue avec les mêmes objectifs, là, donc, avec ce nouveau plan qui a été annoncé vendredi. Donc, ça ferait le tour. C'était le fédéral à peu près mur à mur, mais malheureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles qui viennent d'Ottawa. Donc,
merci,
il y aura la suite dans les prochaines semaines.
Merci énormément.
Merci, Léla.